Je vais présenter l'auteur, Sandrine Revet, assise à côté de moi, mais rapidement et très rapidement l'ouvrage, parce qu'en effet, l'ouvrage étant sorti dans ma collection, je ne veux pas non plus apparaître comme quelqu'un qui va vendre particulièrement l'ouvrage de Sandrine Revet. Je suis par ailleurs aussi anthropologue et collègue de Sandrine, mais ce n'est pas... pour cela là, que je suis là ce soir, c'est plutôt pour introduire Sandrine et défendre ce livre. Je suis très contente qu'il ait pu sortir. Sandrine Revet, anthropologue, directrice de recherche au CERI à Sciences Po, spécialiste des questions d'anthropologie des catastrophes, en particulier des catastrophes dites naturelles. J'imagine que ça va faire partie de vos discussions. Le dit ou les guillemets, on en a beaucoup parlé, équipe qui a travaillé sur, on la connaît sur beaucoup de choses, on connaît beaucoup de ses publications, en tout cas dans le monde de l'anthropologie, pour en parler le terme de monde, sur lequel on reviendra aussi très certainement, en particulier ce qui a été sa thèse et qui est devenu un livre sur les coulées de boue au Venezuela, puis une série de publications, de travaux, et en particulier avec Julien Langumier sur le gouvernement des catastrophes, aussi avec des gens comme Vanessa Manscon sur la question des mesures. Donc Sandrine a fait beaucoup de travaux avant ce livre qui ont marqué déjà. Et ce livre s'intéresse, et vous allez en parler très certainement, je vais vous laisser en parler, en particulier à un monde, le monde des catastrophes dites naturelles, et en particulier le monde des organisations internationales organisées en réseau pour répondre à ces dites catastrophes. Et présente, je suis tout à fait à l'aise pour le dire, de manière très fine et particulièrement intéressante, c'est pour ça que j'ai été contente de participer aussi à la publication, à une ethnographie de l'intérieur de ce monde des catastrophes dites naturelles. Et je trouve... Parmi les grandes richesses du livre, vous allez très certainement revenir là-dessus, il y a non seulement l'utilisation de la méthode ethnographique, mais aussi énormément de travail sur l'iconographie, sur les images, sur les questions de quantification, qui sont particulièrement originales et intéressantes dans le bouquin. Et puis aussi une proposition plus théorique sur ce qu'elle appelle les scénarios du risque. Et on a eu plein de discussions sur ce bouquin, donc il y a des choses qui sont restées, d'autres qui ne le sont pas, bon, qui seront dans un autre bouquin. Donc, je vais les laisser discuter du bouquin, puisque c'est aussi pour ça que je ne voulais pas être discutante aujourd'hui, puisque j'ai suivi non seulement l'HDR, puis aussi la transformation du manuscrit d'HDR en bouquin. Donc, trop proche. Et très admirative, très contente d'être là, et je laisse maintenant peut-être Sandrine parler plus en détail de son livre en 5-10 minutes, peut-être de manière générale une présentation large, et puis je vais laisser notre invité Oscar Navarro qui est invité en tant que justement que discutant du livre de Sandrine Revet intervenir. Pour présenter Oscar rapidement, il est maître de conférence en psychologie sociale et environnementale à l'Université de Nantes. Et il travaille en particulier sur la question de l'évaluation des risques par les populations et les stratégies d'adaptation, avec des terrains en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Nice. Différents. Et donc pas des travaux qui vont pouvoir aussi irriguer le type de débat que vous allez... à voir avec Sandrine, puisque ce n'est pas de l'anthropologie, de la psychologie, mais sur des thèmes assez proches. Voilà, donc merci à vous deux d'être là ce soir. Mon rôle serait limitant à celle d'hôtesse. Je distribuerai les micros dans la salle ou entre vous ce soir.
Merci Laetitia, et puis merci à tous d'être là. C'est un plaisir de pouvoir présenter ce livre et de pouvoir en débattre avec vous. J'espère que ça va circuler. C'est difficile de présenter, et puis c'est pas le but, mais je voulais juste vous dire un petit peu deux mots de la démarche de ce qui m'a amené un petit peu à travailler sur ce sujet-là, et puis comment j'ai procédé. Parce qu'ensuite, je pense qu'on discutera peut-être plus des points de fond et des questions sur comment ce monde les catastrophes fonctionnent. En fait, donc, comme l'a dit Laetitia, moi, je suis anthropologue. Donc, quand on est anthropologue, on a une boîte à outils centrale qui est la méthode ethnographique, ce qui veut dire s'immerger longtemps auprès de groupes sociaux. Donc, ça peut être des populations très éloignées, mais ça peut être aussi des mondes professionnels, des gens qui nous ressemblent, des experts très proches. Et il se trouve que, voilà, comme j'avais fait une thèse au Venezuela après une grosse catastrophe qui a eu lieu en 1999, des coulées de boue, j'ai vu se déployer sur le terrain tout un tas de professionnels post-urgence qui venaient mettre en place des programmes de prévention, des programmes de sensibilisation au risque, des programmes de prévention en construisant des ouvrages, des ingénieurs, etc. Et j'ai été frappée dans le sillage de la catastrophe vénézuélienne de prolifération de ces programmes et puis de leur relative standardisation, on va dire. C'est-à-dire que j'avais un peu l'impression que c'était un petit peu les mêmes programmes qu'on mettait en place au Venezuela ou ailleurs. Oui. Alors, c'était des coulées de boue. C'était des coulées de boue, donc après... très rapidement, après un mois de pluie continue, si vous voulez, sur un terrain qui était au pied d'une montagne, très, très à pic, on a eu, la montagne s'est littéralement effondrée sur le littoral, et sur lequel habitaient 300 000 personnes à peu près. Et donc ces coulées de boue ont détruit ce littoral et tué une grande quantité de personnes. On pourra revenir sur les quantités parce qu'il y a beaucoup de débats autour du nombre de morts, etc. Mais voilà, et donc c'est à partir de la fin de cette enquête ethnographique au Venezuela que je me suis beaucoup interrogée sur qui étaient finalement ces professionnels qui mettaient en place ces projets, d'où ils venaient, quels étaient comment ils voyaient les choses, comment ils construisaient ces programmes, etc. Et du coup, j'ai voulu m'approcher d'eux comme on s'approche d'un quartier en anthropologue, ou comme on s'approche d'un village, ou comme on s'approche d'autres types de mondes sociaux. Et j'ai donc commencé cette enquête qui a duré 7 ans. Donc c'est une enquête longue sur la longue durée. Évidemment, les historiens ricanent quand on leur parle de longue durée sur 7 ans, mais pour des anthropologues, ça commence à devenir une enquête un peu dense, un peu longue. Et j'ai côtoyé donc ces professionnels de toutes sortes. Donc, j'ai commencé par le centre, on va dire, de ce monde, qui était une agence de l'ONU. Donc j'ai frappé à la porte, je me suis présentée, j'ai commencé par me faire accepter, faire des observations dans les bureaux, prendre des contacts. Et puis je me suis vite rendu compte que cette agence, elle produisait beaucoup de normes, beaucoup de textes, en essayant d'irriguer comme ça des politiques publiques, des politiques internationales pour rassembler des choses autour des catastrophes, mais qu'elle ne matérialisait pas autrement ces projets. Donc j'ai suivi un certain nombre d'acteurs sur des scènes où des projets se mettaient en place. J'ai essentiellement travaillé sur des terrains latino-américains, et j'ai été observée des exercices d'évacuation, des cours, des formations, des moments où ces professionnels travaillaient, en fait. Alors, pas travailler pour secourir les gens, je n'ai pas observé des situations de catastrophe sur des terrains différents, mais j'ai vraiment regardé comment ces professionnels faisaient fabriquer un monde commun. Puisque, en fait, il faut se rappeler que, au départ, la gestion des catastrophes et la prévention des risques, c'est une affaire purement nationale. Ce n'est pas une affaire internationale, c'est de la responsabilité des États. Et donc, pour faire émerger cette problématique à l'international, il faut que des acteurs la prennent en charge au niveau international, donc des agences de l'ONU, des experts qui vont rendre cette chose internationale. Voilà. Donc j'ai suivi ces experts et ces professionnels pendant 7 ans, sur différentes scènes, et j'en ai tiré cet ouvrage. Voilà, donc on va peut-être parler du fond à partir de ce que des questions.
D'accord.
Voilà.
Bon, merci.
Alors du coup, bah, je vais essayer de... Parce qu'effectivement, il y a tellement d'idées. Je disais à mes collègues tout à l'heure en échangeant que j'étais un peu intimidé du fait que... Alors déjà, notre présence en tant que notre discipline, psychologie sociale, dans ces milieux pour échanger, ce n'est pas très courant. Et en même temps, parce que ça m'évoquait tellement de choses, la lecture de l'ouvrage, en fait, que je ne sais plus par où commencer. Donc la bonne idée, je pense, ça serait que je commence avec quelques idées comme ça, et j'espère être interrompu, arrêté, pour qu'on puisse échanger de façon plus dynamique. Parce qu'effectivement, l'idée, ce n'est pas non plus de monopoliser la parole, mais plutôt faire émerger quelques éléments. Donc je vais me permettre parfois peut-être un peu provocateur, mais c'est un peu l'idée aussi. Parce que éventuellement, et certainement même, la fabrique du monde des catastrophes, en fait, naturelle, entre guillemets, rien que cela, ça évoque beaucoup de choses. Alors le naturel, entre guillemets, des catastrophes dites naturelles, déjà, je pense que je suis tout à fait d'accord, déjà. Les catastrophes ne sont pas du tout naturelles, mais effectivement, ça montre bien qu'il y a des caractéristiques, des éléments de base en fait, qui font que des populations, des sociétés, toutes les sociétés en fait, soient déjà donc, exposées et parfois touchées par des phénomènes catastrophiques. Donc, effectivement, ça m'a beaucoup intéressé. Et puisque j'ai déjà maintenant l'habitude de travailler toujours en interdisciplinaire avec des géographes, sciences de la Terre, etc., malgré nous, en psychologie et sociale et environnementale, on se retrouve effectivement appelé à prendre en considération effectivement ces situations difficiles pour les gens. Donc j'ai lu avec beaucoup d'attention. Alors, donc déjà, une lecture qui se fait, c'est très agréable, un traitement très fin. On voit très bien, la méthode, elle permet effectivement de donner de la couleur, si je me permets, de donner en fait une vie à ces personnes que vous citez, que vous évoquez. Donc c'est une lecture très agréable. Une mise en récit, en fait, je dirais même imagée, parce que encore une fois, on arrive très bien. Alors, moi, j'ai une proximité culturelle. En même temps, je suis colombien à l'origine, donc du coup, ça m'est parlé beaucoup. Alors, vous commencez, assez tôt dans l'ouvrage, par cet événement qui a marqué le Nevado del Ruiz, cette catastrophe de 1985, et cette image emblématique de la petite Omaïda. Je crois que j'avais à peu près son âge à l'époque, peut-être un petit peu plus jeune. Non, ça, c'est encore une autre catastrophe, même avant.
C'était une éruption, si je peux me permettre. Oui, c'était une éruption volcanique qui a donné lieu à des coulées de boue en Colombie, mais dont on se souvient parce qu'elle a été fortement médiatisée, parce qu'on a assisté sur les télévisions du monde entier à la mort en direct d'une petite fille qui était coincée.
Omaïda, oui, effectivement.
Omaïda, qui était coincée et dont on a vu...
Et d'ailleurs, qui me fait penser tout de suite à cette idée d'international, parce que, ce que d'ailleurs je discutais tout à l'heure, c'est que c'est les médias espagnols notamment, et puis des photographes européens qui ont fait ces images, qui ont fait le tour du monde. C'était même pas les médias colombiens eux-mêmes, encore moins les médias locaux, qui se sont appropriés parce qu'on était occupés à autre chose. La petite histoire dira que c'est une année complètement difficile pour les Colombiens, il y avait d'autres problèmes aussi en même temps. C'était une période très... Mais on réalise après coup, effectivement, ce rôle des médias internationaux et puis les images qui vont véhiculer. Bref, donc, du coup, je me suis très tôt senti très proche, effectivement, de ces images-là et puis des propos, notamment, puisque c'est quand même très intéressant. Et là, honnêtement, l'originalité, pour moi, elle est là. C'est que je n'aurais pas pensé, justement, l'intérêt de s'occuper de ces personnes, de ces institutions, de ces organismes, en fait, ce monde et ces coulisses, des catastrophes naturelles. Donc, c'est tout un monde qui cohabite, qui essaie de retrouver ses marques, ses frontières, etc. Donc, tout l'intérêt est là. Alors, un vaste ensemble de spécialistes à des échelles géographiques différentes, donc le côté international, national, parfois local, Donc, ce changement d'échelle est très important. Les objectifs, en fait, qui mobilisent finalement ce monde, élaborer des documents, prévenir, réduire les catastrophes, rendre alors un objectif qui est cité, rendre le monde réel plus sûr et résilient, ce qui devient un peu l'idéal, je pense, n'est-ce pas ? Mais en tous les cas, faire face aux catastrophes naturelles et puis, de façon coordonnée, pouvoir standardiser aussi, comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, la réponse et ses coordonnées. Alors, ce qui est facile à dire, mais très difficile, je pense, à faire. Alors, j'ai appris beaucoup de choses. J'aimerais quand même souligner quelques éléments avant d'arriver sur des choses qui, peut-être, qui m'inquiètent. Alors, pas effectivement sur le texte, mais qui, à la lecture du texte, peuvent effectivement m'inquiéter parce que, en même temps, quel est notre point de départ ? Et là, je vais me situer, moi, dans mon regard, éventuellement, ma discipline, notre approche. C'est qu'on constate effectivement cette distance, parfois très importante, entre les mondes. Alors maintenant, je m'approprie de ce concept. ces mondes, en fait, des gestionnaires, de scientifiques, et le social, les populations qui suivent parfois et qui doivent s'adapter. Donc, c'est trois mondes qui parfois ont du mal à communiquer. Donc, alors nous, effectivement, dans notre démarche, on sera peut-être plus proche de ce troisième, hein, les populations, les sociétés, les gens qui sont concernés par ces événements. Mais effectivement, ça m'a permis de voir donc peut-être un des mondes que je connais très mal, effectivement. Formellement, on va dire. Donc voilà, j'ai appris beaucoup de choses à partir de là. Donc l'existence de ces mondes et de ces coulisses, hein, c'est fondamental, ces jargons, les symboles, les images, donc sa complexité. C'est vrai qu'on voit, on a l'idée d'apercevoir un monde quand même assez bien constitué. Cependant, il bouge, et voilà, c'est assez complexe. J'apprends aussi comment ce monde a été façonné, comment il se façonne encore, comment il évolue par ces entrepreneurs, entre guillemets, c'est une notion que j'ai découverte, j'ai beaucoup apprécié, par ces événements, par la création de ces frontières, j'ai beaucoup apprécié ce terme également, parfois des frontières donc, qui sont floues, partagées avec d'autres mondes, c'est très intéressant, de l'humanitaire, le monde de l'humanitaire, du développement, de la santé publique, etc. Un monde qui est parfois paradoxal, donc constitué à la fois du politique, peut-être du diplomatique, et là j'hésite, je ne sais plus, en tous les cas par cet aspect plutôt politique, mais aussi scientifique, donc voilà, qui est complémentaire. Alors, un monde en fait qui est défini à la fois par le problème qui justifie son existence, la vulnérabilité, mais également par la solution qu'elle propose, la résilience éventuellement. Là, on va sur des schémas très classiques, mais voilà un monde en fait, qui doit se justifier quelque part. J'ai l'impression, après, on peut en discuter, on doit presque se vendre pour être financé, pour pouvoir continuer à exister. Donc, on va parfois mettre plus en avant des aspects de la vulnérabilité, du problème, mais de la solution également. Un monde qui doit se justifier, alors, par le besoin de se coordonner, voire se diriger, en fait, qui justifie des financements, mais en tous les cas, vendre aussi leur efficacité. Le besoin des mises en image, alors cet aspect, ce chapitre effectivement dédié à ça, j'ai beaucoup apprécié, avec des exemples très précis, qui d'ailleurs, on les voit, hein, quand on va consulter les textes, les documents officiels, etc., les images sont là, donc j'ai beaucoup apprécié cet aspect. Donc un monde qui a besoin de mettre en image son objet, ses fondements. Donc, alors je me demandais, mais pourquoi faire ? Quel est l'intérêt, justement ? Et effectivement, c'est des images qui sont véhiculées et qui ne sont pas... Enfin, comment dire ? Ce n'est pas neutre, hein, c'est un choix qui est fait. Une évolution aussi, n'est-ce pas, aussi de l'objet. Le besoin de définir ses acteurs... Là, c'est un terme que j'utilise, moi, des acteurs. Alors, l'entrepreneur, comme on a dit tout à l'heure, expert, diplomate, éventuellement aussi les victimes, également les héros, les secouristes. Hein. J'ai bien aimé cette idée des héros. et plus la nature elle-même, qui pourrait effectivement, à un moment donné, être considérée comme un acteur de ce monde. Et donc, c'est dans cette interaction de tous ces acteurs-là que ce monde s'est construit.